Journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Après le gouvernement, pas question de raccrocher les gants. Les ministres sortants veulent maintenant se confronter aux électeurs. Éric Dupond-Moretti dans le Nord, Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. France Inter vous révèle ce matin leur point de chute pour la bataille des législatives. Y aura-t-il un troisième tour social après la présidentielle? Premier test grandeur nature en ce week-end du 1er mai. Parole de militants cégétistes dans ce journal, alors que sous l'effet de l'inflation, notamment la croissance française stagne, 0% entre janvier et mars, analyse à suivre. Les conséquences économiques de la guerre en Ukraine se font donc clairement sentir cette fois, tandis qu'à Kiev, des missiles frappent des civils en pleine visite du patron de l'ONU. Nous serons sur place. À 8h20, Nicolas, un événement littéraire ce
matin. C'est la sortie de Guerre, roman inédit de Louis-Ferdinand Céline chez Gallimard la semaine prochaine, le jeudi 5 mai. On va en parler dans une bonne vingtaine de minutes avec l'avocat François Gibault et celui qui a édité ce texte, Pascal Fouché. Et vous participerez, si vous le souhaitez, bien entendu, à ce débat, à cette conversation. Appelez le standard d'Inter, 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, l'imagination décidément débordante des autorités chinoises pour serrer la vis face au Covid. De nouvelles règles pour le don de corps à la science et les JO de Paris qui se préparent. Visite en avant-première du camp de base des sportifs britanniques.
France Inter.
Ils ont finalement un peu plus de temps que prévu pour faire leur carton. Surprise, le Conseil des ministres d'hier n'était pas le dernier. Les membres du gouvernement actuel restent pour l'instant en poste. Il faudra patienter, peut-être une bonne semaine pour connaître la nouvelle équipe. Mais sans attendre d'être fixés sur leur sort, des ministres sortants veulent dès maintenant se lancer dans la bataille des législatives. Quête de légitimité ou tout simplement d'un point de chute s'ils doivent quitter leur ministère. En exclusivité pour France Inter, Maxence Lambert, vous nous annoncez ce matin dans quelle région ils ont choisi de se frotter au suffrage.
La débâcle des régionales ne l'a pas refroidi. Éric Dupond-Moretti va retenter sa chance. Lui qui est né à Maubeuge sera candidat dans les Flandres, la 15e circonscription du Nord, occupée aujourd'hui par une ex-marcheuse qui a claqué la porte il y a 3 ans après avoir battu en duel le RN. La ministre de l'Industrie va essayer de faire tomber un député RN. Agnès Pannier-Runacher sera candidate à Lens dans la circonscription voisine de Marine Le Pen. Autre atterrissage, celui de Jean-Michel Blanquer à Montargis dans le Loiret où les gilets jaunes furent nombreux. Le ministre de l'Éducation espère profiter du départ en retraite du député LR Jean-Pierre Door. La droite y lance un élu local de 31 ans. Elisabeth Borne va elle se lancer dans le Calvados. Sophie Cluzel à Annecy, Clément Beaune à Paris, Emmanuel Wargon à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. La majorité des ministres vont donc se frotter au suffrage universel, car l'avenir va s'écrire à l'Assemblée, dit un ministre. À l'Élysée, les dés sont jetés, pas de troisième candidature. Ceux qui ne manquent pas d'ambition n'ont pas encore dévoilé leurs intentions, mais leurs entourages poussent. Bruno Le Maire, dans l'heure, Gérald Darmanin à Tourcoing.
Et la liste complète des ministres en campagne législative est à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr. À gauche, va-t-on vers un accord imminent entre les insoumis et les socialistes? À l'instant, la direction du PS annonce qu'elle souscrit aux propositions de la France insoumise. En tout cas, sur les marchés, tous ces candidats, ils seront sans doute interpellés sur le pouvoir d'achat, les salaires, la réforme des retraites, des revendications qu'on devrait aussi entendre ce dimanche pour la fête du travail. Un 1er mai après la présidentielle et non pas pendant l'entre-deux-tours. On n'avait pas vu ça depuis 1974. Premier test social donc pour le président réélu, comme pour ceux qui réclament un troisième tour dans la rue. Parole de militants de la CGT recueillis dans le 19e arrondissement de Paris par Maxime Deps.
Troisième tour social, l'expression n'est pas partagée par tous, mais le combat n'est pas lexical. Madeleine alias Mado pour ses camarades de lutte.
Je ne sais pas s'il faut dire que c'est un troisième tour social, parce que pour moi le 1er mai, comme toutes les années, c'est un moment où on continue à se battre. Alors peut-être qu'il est un peu plus particulier avec les élections qui viennent d'avoir. Mais tous les sujets, le pouvoir d'achat, les retraites, c'est la bagarre qui doit continuer.
Ce vote m'oblige, déclaré dimanche dernier le président réélu. Un Emmanuel Macron apparu dans les mots redevables envers ceux qui ont dû se forcer à voter pour lui et qui en auraient conscience. Alexis, qui défilera dimanche, est pour le moins sceptique.
Moi je le crois pas, parce que déjà en 2017, on a barré la route à l'extrême droite. Donc déjà à ce moment-là, en fait, il était redevable. Pourquoi est-ce qu'on devrait le croire ?
Pas plus convaincu, Adèle, à ses côtés.
On pense pas qu'il va changer parce qu'il serait devenu tout à coup plus gentil ou il aurait ouvert les yeux. On pense que c'est des gens à qui il faut ouvrir les yeux.
Et cela par le rapport de force qui commence donc avec ce 1er mai.
Personne n'a voté Macron pour lui donner un blanc-seing et lui-même le sait très bien. Son élection est extrêmement fragile pour plusieurs raisons, dont celle-là. Que ça l'oblige ou pas, peu importe. Nous, on l'obligera en tout cas.
Ces militants CGT qui promettent manifestations et grèves durant 5 ans pour justement rappeler régulièrement Emmanuel Macron à ses obligations.
Emmanuel Macron déjà sous pression, le chef de l'État attendu aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées, deuxième déplacement seulement depuis sa victoire. Alors que la machine économique française se grippe, l'INSEE publie ce matin son estimation de croissance pour le premier trimestre. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Croissance à plat, 0% entre janvier et mars.
Oui, alors qu'on était à 3% il y a 6 mois encore, clairement, ce tassement est dû à un net recul de la consommation, moins 1,3%. Tous les postes sont touchés, l'alimentaire, l'hôtel restauration, l'habillement, il faut bien sûr y voir un effet de l'inflation qui galope à 4,5% en rythme annuel et encore le chiffre risque fort de grimper dans les prochains mois. Tout cela entraîne une frilosité de la part des consommateurs français qui restent très prudents face à un contexte économique dégradé. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, elle a commencé fin février et pèse forcément sur les comptes de ce premier trimestre. Du côté des points positifs, on retiendra l'investissement des entreprises en légère hausse ainsi que le commerce extérieur qui reprend quelques couleurs, mais l'euphorie de la reprise post-confinement de l'année dernière semble déjà loin. Stagnation du PIB plus inflation égale stagflation, un scénario dont les économistes nous disent qu'il ne faut surtout pas qu'il s'installe dans la durée. C'est tout le défi économique qui attend maintenant le chef de l'État réélu et son futur gouvernement.
Fabien Cazot, chef du service économie et sociale d'Inter. La France qui s'en sort toutefois un peu mieux que les États-Unis. Là-bas, la croissance subit un recul inattendu, moins 1,4% au premier trimestre.
Il est 8h07 et sur le terrain en Ukraine, Alexis, cette frappe très symbolique de l'armée russe.
Plusieurs missiles ont visé hier soir un immeuble d'habitation à Kiev. Il y a au moins une dizaine de blessés. Première frappe sur la capitale ukrainienne depuis une quinzaine de jours. Et cela alors que le patron de l'ONU est en visite sur place. Antonio Guterres, choqué, mais en sécurité selon son porte-parole. Le secrétaire général des Nations Unies qui s'est aussi livré hier soir à un rare aveu d'échec en conférence de presse. Jean-Sébastien Soldaini.
Antonio Guterres s'avance au pupitre le teint pâle pour décrire une institution dont l'étoile est ternie, sévère. Il confie alors devant les caméras du monde entier que le Conseil de sécurité a échoué dans sa tâche, celle qui consiste à empêcher et à mettre fin à cette guerre. Le secrétaire général de l'ONU va plus loin et semble même dire que tout est à repenser.
Nous sommes au rez-de-chaussée du monde que nous voulons construire, un monde de respect du droit international, de la charte des Nations Unies et du pouvoir du multilatéralisme. Un monde qui protège les civils, qui fait évoluer les droits humains, un monde dont les leaders s'abandonnent aux valeurs qu'ils ont promis d'améliorer.
Déception, frustration, colère, Antonio Guterres livre ses sentiments comme affecté par sa journée passée dans les banlieues martyrs de Kiev. Face aux immeubles éventrés, devant une fosse commune, il a tenté de prendre la mesure des atrocités commises et de l'ampleur des dégâts avant de livrer timidement cette phrase au président Zelensky. Nous n'abandonnerons pas.
5,5 millions d'Ukrainiens ont déjà quitté le pays. Ils sont au moins 70 000 en France et se posent la question de leur insertion professionnelle notamment, car ils ont le droit de travailler. La Fédération des entreprises d'insertion estime que 10 000 emplois leur sont accessibles. Pour Irina, c'est déjà le cas. Elle vient d'être embauchée par un paysagiste en Ille-et-Vilaine. Sophie Constanzer l'a rencontrée.
Avec ses grands yeux verts, Irina, 50 ans, vient d'une ville d'Ukraine située à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la Russie. Et de juriste avant la guerre, elle a voulu travailler la terre en France.
Il
me plaît ici, j'aime apprendre de nouvelles choses. Je connaissais certains outils parce que je vivais à la campagne et j'avais un jardin. Mais j'ai fait bien peu et c'était pas professionnel. C'est différent ici et c'est très intéressant. Depuis qu'Irina a fait ses premiers pas dans l'entreprise, elle forme un binôme inséparable avec Kamal, un Russe arrivé un mois avant elle dans l'entreprise, pour apprendre le métier de paysagiste.
Et donc vous avez une nouvelle collègue?
C'est Irina.
Vous faites son traducteur?
Un peu.
En un mois seulement, Irina a fait les démarches pour obtenir un permis de travail et ce contrat à AG Environnement. l'entreprise d'insertion que dirige Thomas Lalleux.
Actuellement, on est en déficit de main-d'œuvre, donc de toute façon, on est prêt à embaucher tout type de personnes qui ont envie de travailler, très clairement, et de baisser tous nos prérequis d'emploi. Après, la barrière de la langue est quand même un frein.
Irina et son collègue russe Kamal, qui traduit, ont en commun la langue, donc, et désormais les gestes, sous le regard de leur chef d'équipe, Kylian.
Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est beaucoup d'admiration. Ça me touche beaucoup de vous avoir, vous deux. Comment dire, j'en tire peut-être une certaine fierté, entre guillemets, de pouvoir les aider.
Et Irina gagne aujourd'hui 1 400 € par mois. C'est plus que son salaire de juriste en Ukraine.
Sophie Constanzer, la défenseure des droits, hausse le ton sur la situation des enfants de djihadistes français, toujours retenus dans des camps en Syrie. Claire Hédon demande ce matin au gouvernement de les rapatrier, tous dans les plus brefs délais. Pour elle, il s'agit de respecter des engagements internationaux vis-à-vis de mineurs exposés à des traitements inhumains. En Chine, la stratégie zéro Covid n'en finit pas de surprendre, voire de terrifier. La mégalopole de Canton lance le dépistage de 6 millions d'habitants après la détection d'un seul cas. Et dans les zones déjà confinées, les autorités locales regorgent décidément d'imagination pour empêcher les habitants de sortir de chez eux. Comme ces fonctionnaires du nord du pays qui ont littéralement enfermé les résidents d'un immeuble en changeant les serrures des portes d'entrée. Mais cette fois, la mesure a choqué jusqu'aux autorités sanitaires. Pékin, Sébastien Berriot.
Filmée par un habitant, la scène se déroule dans la province du Hebei, près de Pékin, dans une résidence qui vient d'être confinée après l'apparition de cas de Covid. La méthode des fonctionnaires du comité de quartier est pour le moins radicale. Dans le but d'empêcher les gens de sortir de chez eux, on voit les agents armés d'une perceuse en train de sceller des tiges de fer sur chaque porte d'appartement. Une nouvelle serrure extérieure doublée d'un système d'alarme et l'une des fonctionnaires s'adresse aux habitants.
Chaque appartement est maintenant équipé de cette alarme. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Si vous essayez d'ouvrir, l'alarme retentira.
Nous ne sommes pas des animaux qu'on peut enfermer dans des cages, réagissent des internautes chinois qui évoquent des atteintes aux droits de l'homme. Comment faire pour sortir en cas d'incendie, se demandent certains. Ce n'est pas la première fois que des fonctionnaires locaux utilisent la manière forte pour faire respecter les mesures sanitaires. Par peur d'être sanctionnés, les comités de quartier font souvent preuve de zèle. Mais cette fois, la pratique, considérée comme abusive, a fait réagir les autorités sanitaires. L'agence officielle Chine Nouvelle annonce que les mesures prises localement vont être corrigées. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Plus jamais ça, le gouvernement français s'était engagé à de nouvelles règles pour les dons de corps à la science après le scandale de l'université Paris Descartes en 2019. Ces dépouilles conservées dans des conditions indécentes, entassées sur des chariots rongés par les souris. 170 plaintes ont été déposées depuis, une enquête est en cours. Et un nouveau cadre légal vient donc d'être publié au Journal officiel. Un décret pour éviter les dérives, Julie Droit.
Premier changement, l'harmonisation des règles au niveau national. Fini le cas par cas dénoncé par l'association Charnier Descartes. Le gouvernement a aussi voulu apporter un cadre plus rassurant sur les modalités de transport et d'accueil des corps avec la désignation d'une personne de confiance. Une transparence essentielle selon Laurence Désélé, vice-présidente de l'association.
Quelqu'un va pouvoir suivre tout son devenir, va pouvoir être au courant du moment où les travaux auront été effectués sur le corps et où peut-être que le corps pourrait être récupéré ou les cendres. C'est une espèce d'assurance que la volonté du défunt sera écoutée.
Du côté des professionnels de santé, on salue la mise en place d'un comité d'éthique pour chaque centre, l'amélioration des procédures d'information et du consentement. Mais dans les faits, l'application de ce décret s'annonce complexe, explique le professeur en médecine légale Grégoire Moutel, qui a participé aux travaux préparatoires.
Dans les mises en œuvre un peu pratico-pratiques sur les trajets des corps et le devenir des corps une fois utilisés, le décret n'a pas été dans la simplicité. Il a été dans la multiplicité des choix, ce qui est très bien en termes de respect des choix des donateurs, mais n'empêche que tous ces choix possibles sont très durs à honorer en termes de gestion derrière. C'est du temps de secrétariat, c'est du temps de registre, c'est du temps de tenue. Donc il y a un grand danger, c'est que si les moyens ne sont pas mis en œuvre, c'est que ce soit bloquant.
La question des financements est donc au centre des inquiétudes pour ces professionnels qui auraient souhaité une mise en œuvre plus progressive du décret.
Les explications de Julie Droin. L'Olympique de Marseille réduit un peu ses chances de finale européenne. Défaite 3-2 hier sur la pelouse de Rotterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. Mais la qualification est encore possible pour l'OM lors du match retour jeudi prochain au Vélodrome. Eux préparent déjà leur venue à Paris pour les Jeux Olympiques en 2024, à 800 jours de l'ouverture. Chaque délégation choisit en ce moment son camp de base, là où les équipes vont venir s'entraîner, s'habituer pour certaines au décalage horaire, au climat, et cela à partir de cet été. Parmi les 900 lieux proposés par les organisateurs des JO, les Britanniques ont jeté leur dévolu sur Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Emma Sarango a pu visiter le camp de base de la Team GB.
Au cœur de la forêt domaniale, un complexe omnisport de 12 hectares.
Des cours de tennis en terre battue, le hockey sur gazon, les infrastructures du Paris Saint-Germain.
C'est Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, qui joue le guide pour la délégation britannique.
So they started the works here. Les travaux ont commencé.
Et voici le joyau, bientôt achevé, la piste d'athlétisme olympique à 8 couloirs.
On va avoir toute l'équipe athlétique, l'une des plus impressionnantes au monde, avec des recordman, des champions olympiques. Donc on aura un équipement qui sera vraiment de qualité pour pouvoir les accueillir.
Et Monsieur JO de Londres, Sir Hugh Robertson, ne regrette pas ce choix.
L'équipe a visité plusieurs lieux et quand ils sont rentrés, ils ont dit c'est celui-là qu'on veut.
Les Britanniques disposeront aussi de la piscine olympique, des terrains de golf, mais aussi des commerces, pubs, restaurants, et ça compte presque autant pour Emily Campbell, médaillée d'argent d'haltérophilie à Tokyo, impatiente de concourir à Paris.
C'est tellement agréable de se sentir à la maison, loin de la maison, cela nous permet d'être serein et prêt pour donner le meilleur de nous-mêmes.
Les travaux de près d'1,5 million d'euros sont financés par la ville, le département et la région, avec l'ambition d'accueillir ici, à l'issue des Jeux, les 23 000 élèves que compte la commune.
Et parmi les autres sites proposés, on sait déjà que le Japon a choisi Amiens, les États-Unis Aubonne dans le Val d'Oise, ou encore Chartres pour l'Australie. Et si l'espace n'était plus un gigantesque Far West, le Canada vient d'adopter une loi permettant des poursuites judiciaires pour des crimes commis sur la Lune ou en orbite. Concrètement, si un astronaute canadien venait à tuer quelqu'un lors d'une mission spatiale, ce serait considéré comme un acte commis sur le sol canadien. Mesure votée alors qu'un Canadien doit justement participer en 2024 à un vol en orbite lunaire. Le voilà prévenu.
Merci Alexis Morel. Les nuages maintenant. Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
C'était lunaire. Ah, les nuages, Marie-Pierre, remontent vers le nord dès ce matin.
Oui, mais comme les pressions restent assez hautes, on va rester encore sous un régime sec. Les Pyrénées retrouvent le soleil ce matin et la perturbation et ces nuages présents sur le sud-ouest invitent aujourd'hui sur le Limousin jusqu'au bassin parisien et peuvent même donner une petite ondée localement. Des belles éclaircies vont revenir sur la Bretagne et le Cotentin et dans l'Est jusqu'en Méditerranée. Votre matinée restera ensoleillée sous un petit vent sur le golfe du Lion et les côtes corses. Il fait assez doux ce matin, au plus bas 4 en Lozère, il fait 3 dans les Vosges, vous avez 9 à Poitiers, 10 à Saint-Brieuc comme à Marseille, 11 à Bordeaux et déjà 17 à Perpignan.
Et pas beaucoup d'évolution cet après-midi.
Et oui, le ciel va rester nuageux du sud-ouest, encore en remontant sur le centre à la Lorraine avec un risque d'orage sur les Pyrénées. Cet après-midi est le Massif central et de l'Île-de-France au Hauts-de-France, peut-être 2 ou 3 gouttes ensablées pourraient tomber. En revanche, ce sera le retour de belles éclaircies de la Vendée à la Bretagne, à la Normandie et sur les régions de l'Est. Ça va se voiler un peu, mais ce sera vraiment du ciel bleu comme en Méditerranée, sous le vent autour de la Grande Bleue, du vent aussi près de la Manche qui limitera la hausse du mercure à 13 à Calais, 16 à Granville, il fera 17 à Biarritz et à Lille, alors qu'on attend 25 à Grenoble, 26 à Avignon, comptez 21 à Paris comme à Baccara ou Ajaccio, 23 à Nantes, 22 à Toulouse, Strasbourg et 24 à Montpellier.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h18.